France Culture.
Bonsoir Stanislas.
Bonsoir Astrid, bonsoir à tous. La France se menace d'interdire Shein après la vente en ligne de poupées à caractère sexuel. Et pourtant, la plateforme chinoise n'est pas la seule à commercialiser des objets pédopornographiques. Les explications de Valérie Cantier dans un instant. Les députés adoptent un amendement du Rassemblement national qui rétablit l'exit tax, un impôt pour lutter contre l'évasion fiscale des entrepreneurs. La gauche s'est abstenue, ce qui a permis l'adoption du texte. Un avion militaire russe a atterri au Venezuela le 26 octobre. Dernier, face aux États-Unis, le régime Maduro renforce ses relations avec la Russie de Vladimir Poutine. Natacha Apana, lauréate du prix Femina 2025 pour La Nuit au Cœur, un livre sur le destin de trois femmes victimes de violences conjugales. Nous y reviendrons à la fin de ce journal avec Jeanne Sirin. La plateforme Shein va-t-elle devenir inaccessible en France? C'est en tout cas la menace que fait peser le gouvernement sur le géant chinois coupable d'avoir commercialisé des poupées sexuelles à caractère pédocriminel. Si ces comportements sont répétés, nous serons en droit d'interdire l'accès de Shein au marché français, a déclaré le ministre de l'économie Roland Lescure sur l'antenne de BFM TV. Un scandale de plus pour Shein qui doit ouvrir mercredi au BHV à Paris, son premier magasin physique au monde. Et pourtant, la plateforme est loin d'être la seule à vendre en ligne des objets pédopornographiques. Nous sommes avec Valérie Cantier de l'agence de vérification de Radio France. Bonsoir.
Bonsoir.
Valérie, ces poupées sexuelles, on les trouve aussi sur des plateformes américaines ou européennes, bien connues, comme vous avez pu le constater.
Oui, absolument. On cherche et on trouve très facilement sur Internet des poupées sexuelles nettement mineures en apparence, de petite taille, très fines, très réalistes, puisqu'elles sont en silicone. Par exemple, sur le site d'un sex shop spécialisé dans les poupées, justement, l'acheteur peut sélectionner la taille. Celles de moins d'1m25 sont clairement des enfants. Certaines portent des tenues d'écolière. Il s'agit d'une société enregistrée aux États-Unis avec support client et stockage en France. Certains sites de produits d'occasion sont concernés aussi, des sites connus. Certaines poupées ont des seins, mais un corps prépubère. D'autres n'ont pas du tout de poitrine. Exemple, cette annonce sur le site lituanien Vinted, poupée érotique articulée. La poupée à 430€, à moins de 10 ans, c'est évident. L'annonce vue hier a été retirée aujourd'hui. Sur eBay encore, on en trouve aussi, par exemple, cette poupée portant une culotte en coton de petite fille.
À partir de ce constat, Valérie, que peut la France pour faire respecter ses lois contre la pédocriminalité?
Alors, la tâche est difficile, mais elle est possible. Après alerte, si les contenus n'ont pas été retirés dans les 24 heures, l'autorité administrative peut saisir les fournisseurs d'accès à Internet et les moteurs de recherche pour bloquer et déréférencer le site en lui-même. Puis il y a les clients aussi, un article du Code pénal permet des poursuites pour toute la chaîne. Céline Astol fait l'avocate de la Fondation pour l'enfance.
La peine maximale pour la diffusion, la fixation, l'enregistrement, la transmission de ces images, en principe, est de 5 années d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende, mais elle est portée à 7 ans d'emprisonnement et à 100 000 euros d'amende lorsque a été utilisé pour cette diffusion un réseau de communication électronique. Et ensuite, ces objets, lorsqu'on les acquiert, font encourir à ces acheteurs une peine de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende.
Alors, Shein doit fournir la liste de ses clients et la direction de la répression des fraudes a saisi hier le procureur de la République et l'instruction est en cours.
Valérie Cantier de l'agence de vérification de Radio France. J'ajoute que les responsables de Shein seront convoqués devant les députés sous 15 jours pour s'expliquer sur ces dérives. Une convocation devant la mission d'information sur les contrôles des produits importés en France. L'Assemblée a adopté aujourd'hui un amendement porté par le Rassemblement national. Dans le cadre de la discussion budgétaire, les députés ont validé un texte de l'élu RN Jean-Philippe Tanguy qui rétablit l'exit tax, un impôt créé par Nicolas Sarkozy en 2012 pour freiner l'évasion fiscale des entrepreneurs. L'extrême droite a voté l'amendement, la droite et les macronistes s'y sont opposés, mais l'abstention d'une majorité de la gauche a permis son adoption. Bonsoir Camille Magnard.
Bonsoir Stanislas.
C'est en fait la version sarkozyste de l'exit tax qui a été rétablie, car les macronistes avaient édulcoré la portée de cet impôt.
Oui, alors pour rappeler de quoi on parle, hein, l'exit tax, elle avait été mise en place quand on a commencé à prendre la mesure de l'évasion fiscale. Ces dizaines de milliards d'euros d'impôts non payés à la collectivité chaque année par des contribuables français détenteurs d'actions ou de parts sociales dans des entreprises qui décident de transférer leur domiciliation fiscale hors de France pour échapper donc à la taxation de ce qu'on appelle les plus-values latentes. Et en 2019, à peine arrivé au pouvoir et sous couvert de relancer l'attractivité de la France, la majorité macroniste avait considérablement affaibli le dispositif en réduisant de 15 à 2 ans la durée de détention des titres ou actions pour lesquels on pouvait obtenir un remboursement, une annulation de l'exit tax. Un gros trou donc dans la raquette de la lutte contre l'évasion fiscale. Alors il faut dire que déjà l'année dernière, un amendement pour revenir à l'exit tax d'origine avait été voté par les députés, mais la mesure était passée à la trappe avec le 49-3. Elle est surtout cette mesure symbolique en rupture avec la politique de l'offre en faveur des entrepreneurs et des plus riches menée depuis 8 ans par Emmanuel Macron. D'ailleurs, des amendements dans le même sens avaient été aussi déposés en commission par la gauche cette année. Selon Bercy, si elle était maintenue dans le budget de 2026, ce rétablissement de l'exit tax d'origine ne permettrait pas de ramener toutefois dans les caisses de l'État plus de 70 millions d'euros de recettes.
Explication signée Camille Magnard. Cet amendement sur l'exit tax est une péripétie supplémentaire dans une bataille budgétaire dont on ne voit plus vraiment le bout. Les députés ne réussiront pas à terminer l'examen de la première partie du projet de loi de finances, la partie recettes programmée jusqu'à ce soir minuit, car il reste plus de 2000 amendements à examiner. Ce qui signifie que le vote solennel prévu demain sur ce premier texte n'aura pas lieu. Et la conférence des présidents à l'Assemblée devrait valider le début de l'examen du PLFSS, le projet de loi de financement de la sécurité sociale prévu demain après-midi. Bonsoir Stéphane Robert.
Bonsoir Stanislas.
Pour compliquer encore un peu plus les choses, l'examen de la première partie du projet de loi de finances pourrait reprendre après celui du PLFSS, c'est-à-dire en milieu de semaine prochaine.
Oui, car les députés ont jusqu'au 23 novembre minuit pour examiner l'ensemble du projet de loi de finances avant de le transmettre aux sénateurs. Ils pourront donc reprendre l'examen de la première partie du PLF après l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale prévu toute cette semaine. Compte tenu du nombre d'amendements qui restent à examiner sur cette première partie, il y en a plus de 2200. On arrivera peut-être au bout avant le 23 novembre, mais on n'arrivera pas au bout de la seconde partie, la partie dépenses, c'est une quasi-certitude. Dans ces conditions, le texte du PLF sera transmis au Sénat dans sa version initiale, c'est-à-dire sans les dispositions discutées et votées par les députés. Seul le gouvernement aura la possibilité d'y ajouter les dispositions qu'il souhaite. La loi de finances reviendra 15 jours plus tard à l'Assemblée, en grande partie modifiée par le Sénat. Il faudra donc tout recommencer depuis le départ pour essayer à nouveau de trouver un compromis avec les socialistes. Le gouvernement et le camp présidentiel sont toutefois assez pessimistes quant à l'issue des débats, car au mieux, les socialistes s'abstiendront lors du vote. Dans ces conditions, les lois de finances ne peuvent pas être adoptées sans 49-3. Et donc à ce stade, l'examen du budget 2026 semble déboucher sur une impasse dont on ne sortirait que par une loi spéciale comme l'an dernier, loi qui reconduirait provisoirement la partie recette du budget 2025 et on réexaminerait le budget 2026 en début d'année prochaine. Le budget 2026, si le Parlement n'a pas le temps de se prononcer, pourrait aussi être mis en œuvre le 1er janvier par ordonnance, c'est-à-dire dans sa version initiale, celle du gouvernement, sans aucun des amendements discutés et négociés avec les parlementaires.
Stéphane Robert, merci. À noter que tous les partis de gauche ont boycotté la réunion de négociation budgétaire programmée aujourd'hui par le gouvernement, et cela pour protester contre la présence du Rassemblement National à cette réunion. Réunion qui a eu lieu à la mi-journée au ministère des Relations avec le Parlement. C'est un bon résultat qui ne passe pas forcément bien en France. Ryanair a annoncé aujourd'hui un bénéfice net de 2,54 milliards d'euros pour le premier semestre, en hausse de 42% sur la même période de l'an dernier. La compagnie aérienne irlandaise a transporté 207 millions de passagers sur les 6 premiers mois de l'année. Et pourtant, elle vient de supprimer 3 dessertes en France, Brive, Bergerac et Strasbourg. Hakim Kasmi, bonsoir.
Bonsoir, Stanislas.
Ryanair dénonce les taxes aéroportuaires aéroportuaire française, ce qui ne l'empêche pas d'engranger de nouveaux bénéfices.
Oui, le PDG de Ryanair, Michael O'Leary, connu pour sa chasse aux économies dans ses avions, il promettait, souvenez-vous, de faire payer les toilettes dans les appareils, justifie son choix de fermer 3 aéroports, soit 25 lignes en France, par le triplement de la taxe de solidarité sur les billets d'avion, qui a fait rapporter à l'État en France près d'1 milliard d'euros depuis un an et donc comblé une partie de son déficit. Ce qui rend, selon la compagnie irlandaise, notre pays moins compétitif par rapport à d'autres États de l'Union européenne, comme par exemple l'Irlande, l'Espagne ou encore la Pologne, ce qui va se traduire par des milliers de suppressions de postes en France, estime Thomas Join, le président de l'Union des aéroports français.
Ce que je peux vous dire, c'est que nous avons sur cet hiver déjà 630 000 passagers en moins de prévu par rapport à l'année passée du fait de ces réductions. Et il y a un ratio dans le secteur qui est de 1 emploi pour 1 000 passagers. Donc voilà, c'est en effet de nombreux emplois qui vont déjà être réduits cet hiver et en 2026.
Alors, pour éviter de nouvelles fermetures, l'été prochain en France, les professionnels du secteur demandent au gouvernement et aux députés qui planchent actuellement sur le budget de réduire la taxe de solidarité sur les billets d'avion afin de la faire revenir à son montant de l'année dernière, soit 2,63 euros par passager, ce qui serait un mauvais signal envoyé aux écologistes ainsi qu'aux ONG à quelques jours de l'ouverture de la COP au Brésil lundi prochain.
Hakim Kasmi, merci. Les États-Unis auront les yeux rivés sur New York demain. La mégapole de 8,5 millions d'habitants élit son maire et c'est le candidat démocrate Zohran Mamdani qui part favori du scrutin. Cet élu local de 34 ans pourrait devenir le premier maire musulman de New York. Sa possible élection inquiète Donald Trump qui le qualifie de communiste. Le président américain qui voit sa cote de popularité s'effriter dans les dernières enquêtes d'opinion un an après sa victoire éclatante à la présidentielle. Timur Turc nous appelle d'Atlanta.
À la télévision américaine ce matin, CNN publie son dernier sondage. Donald Trump n'y recueille que 37% d'opinions favorables, au plus bas depuis son retour à la Maison-Blanche. Pourquoi ? Parce que les Américains classent en priorité l'économie parmi leurs attentes et ils sont 6 sur 10 à penser que Trump aggrave la situation. 6 sur 10 estiment également que Donald Trump abuse de son pouvoir présidentiel, mais le Parti démocrate ne profite pas franchement de cette baisse de Donald Trump dans les enquêtes d'opinion. Seuls 29% des Américains soutiennent le Parti démocrate. C'est moins que pour les Républicains. Conclusion similaire dans un sondage Ipsos pour le Washington Post publié hier. 59% de sondés désapprouvent l'action de Donald Trump, chiffre le plus haut depuis l'assaut du Capitole en 2021. 63% le trouvent déconnecté de la réalité. Mais ils sont encore plus nombreux, 68%, à considérer que le Parti démocrate est déconnecté de leur vie.
Timur Özturk, correspondant de France Culture aux États-Unis. Voilà un atterrissage qui intrigue, celui d'un avion de l'armée de l'air russe arrivé au Venezuela le dimanche 26 octobre. Qu'avait-il à son bord ? La question reste entière ce soir. Nous sommes avec Virginie Pironon de la rédaction internationale de Radio France. Virginie, ce qu'on sait en revanche, c'est que cet atterrissage intervient seulement quelques jours après une lettre envoyée par le président vénézuélien Nicolas Maduro à Vladimir Poutine.
Oui, une lettre dans laquelle, c'est ce que révèle le Washington Post, Nicolas Maduro demande à Vladimir Poutine des missiles, des radars et des avions modernisés. Alors que les États-Unis intensifient la pression sur le Venezuela, une douzaine de frappes américaines contre des trafiquants de drogue présumés ont tué plus de 60 personnes depuis septembre, Nicolas Maduro aurait également écrit au chinois Xi Jinping pour lui demander, ouvrez les guillemets, une coopération militaire élargie. L'Iran serait aussi mis à contribution, fournissant notamment des drones à Caracas. Concernant désormais cet avion militaire russe, un Ilyushin 76, il aurait transité, selon le site spécialisé Flight Radar, par l'Arménie, l'Algérie ou encore le Sénégal, un détour nécessaire pour contourner l'espace aérien des pays occidentaux. Alors qu'avait-il à son bord ? Mystère, même si les spécialistes notent que l'appareil conçu sous l'URSS peut transporter jusqu'à 50 tonnes de matériel militaire.
Et alors qu'il est, Virginie, Moscou reste l'un des principaux alliés du Venezuela.
et même une bouée de sauvetage. Les deux pays entretiennent des relations de longue date, en particulier depuis l'accession d'Hugo Chavez au pouvoir en 99. Et aujourd'hui, selon les analystes, la coopération va de la pétrochimie aux achats d'armes en passant par les crypto-monnaies. Nicolas Maduro a besoin de Vladimir Poutine et vice-versa. Si le régime actuel de Caracas tombait, Moscou aurait beaucoup à perdre. Par exemple, une usine de munitions de Kalachnikov a ouvert cet été au Venezuela et Moscou possède également dans le pays des droits d'exploitation pour des milliards de dollars de réserves de gaz naturel et de pétrole.
Virginie Pironon de la rédaction internationale de Radio France. Direction la Pologne à présent pour évoquer la colère des tabaculteurs polonais. Plusieurs centaines d'entre eux ont manifesté cet après-midi à Varsovie devant le siège du gouvernement. Ils veulent faire pression sur leurs représentants alors que l'Union européenne pourrait couper le robinet des subventions aux producteurs de tabac comme le lui demande l'Organisation mondiale de la santé. Une perspective qui inquiète les tabaculteurs polonais. Le reportage à Varsovie d'Adrien Sarla.
Producteur de tabac, faites entendre que vous êtes là le plus fort possible.
C'est en brandissant drapeau polonais et lanterne funéraire que les producteurs de tabac sont venus faire signer leur pétition au ministre de l'Agriculture pour s'assurer qu'ils défendent leurs intérêts à Genève.
Pour ceux qui en ont, on peut allumer une dizaine de bougies ici.
Des bougies qui symbolisent, selon eux, l'enterrement de l'agriculture polonaise orchestrée par l'Organisation mondiale de la santé et l'Union européenne. La famille de Paulina fait partie des 30 000 qui vivent de la culture du tabac en Pologne. Depuis que leur élevage de viande a fait faillite, ils ne vivent plus que de leurs 12 hectares de tabac.
Nos familles vont perdre leur travail et leurs moyens de subsistance. Car si on nous coupe les subventions agricoles comme ils veulent le faire et qu'on n'est plus soutenu financièrement, comment voulez-vous que nous, les agriculteurs, on s'en sorte ?
Wiesław, lui, a fait le déplacement depuis une région frontalière de l'Ukraine, connue pour ses cultures tabacoles. Il dit comprendre l'argument sanitaire de l'OMS, mais juge l'asphyxie de la production européenne hypocrite.
Soit nos cigarettes vont avoir un impact négatif sur la santé, mais celles qui sont produites au Brésil, en Argentine ou en Inde, par exemple, vous pensez qu'elles seront inoffensives ? Parce que c'est là qu'on va les importer. Ceux qui veulent fumer, eux, ils continueront de fumer.
En Europe, le tabagisme fait au moins 700 000 victimes chaque année.
Adrien Sarla, correspondant de France Culture en Pologne. Retour à l'actualité française avec le coup d'envoi de la saison des prix littéraires et le prix Femina a été décerné aujourd'hui à Natacha Apana pour son livre La nuit au cœur, publié chez Gallimard, un ouvrage sur les violences conjugales qui tournent au féminicide. Le jury Femina, entièrement féminin, l'a choisi au second tour de vote. Natacha Apana est une journaliste et romancière mauricienne qui vit en France. Elle signe là son 12e livre qui est également en lice pour le Goncourt demain. Jeanne Serrin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez lu La nuit au cœur, un récit poignant qui raconte le destin de trois femmes prises dans l'engrenage des violences masculines. Un livre, Jeanne, qui s'est déjà vendu à près de 31 000 exemplaires en un peu plus de deux mois.
Oui, c'est l'histoire de Shaïnès Daoud, habitante de Mérignac, retrouvée morte, le corps calciné après que son mari l'a aspergée d'essence. On connaît surtout cette affaire sous le nom de féminicide de Mérignac. C'est aussi l'histoire d'Emma, une femme mauricienne, cousine éloignée de l'autrice, fauchée à l'aube par son mari au volant d'une grosse berline. C'est enfin l'histoire d'une jeune fille de 17 ans qui tombe amoureuse d'un homme de 30 ans de plus qu'elle, un génie sombre, comme elle l'appelle, qui lui fera vivre 6 années de violence. Cette femme est la seule survivante du livre, elle s'appelle Natacha Apana. Angle mort de sa vie, comme elle l'écrit, c'est la première fois que l'auteur se retourne sur ses années et entrelace sa vie avec celle de Shaïnès et Emma pour tenter de comprendre ce qui lui a permis à elle de ne pas être tuée. On retrouve ainsi le thème de la violence des hommes, motif déjà abordé plusieurs fois dans l'œuvre de l'écrivaine, mais c'était sous le prisme de la domination coloniale en 2023, notamment dans La mémoire délavée. Cette fois, c'est la mécanique du féminicide qu'elle épluche minutieusement, comme une enquête. Elle raconte la dernière journée de la condamnée dans une écriture qui redonne voix à ces femmes forcées au silence. Natacha Apana réussit surtout avec une grande justesse à restituer l'emprise, ce qu'elle appelle le terrorisme intime, d'où ce titre « La nuit au cœur » qu'elle expliquait dans le book club le 29 septembre dernier au micro de Marie Richeux.
Je me souvenais de la manière dont mon propre cœur battait, d'une manière dont il n'a plus jamais été emballé comme cela, été agité comme cela. C'est plutôt la noirceur au cœur, la nuit au cœur.
Vous l'avez dit, Natacha Apana est en lice pour le Goncourt, mais elle semble désormais hors jeu puisqu'il est d'usage de ne pas récompenser deux fois un même auteur. Mais nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise. Réponse demain, Stanislas.
Jeanne Serrin, merci. À retrouver sur franceculture.fr votre info culturelle consacrée à la nuit au cœur de Natacha Apana. À noter enfin que le prix Fémina de l'essai a récompensé Marc Wetzmann, ancien producteur à France Culture, pour La part sauvage, ouvrage consacré au romancier américain Philip Roth. Le temps de demain, les nuages resteront nombreux sur la moitié nord avec des pluies qui circulent de la Bretagne à la frontière belge. Au sud, le soleil s'imposera, surtout l'après-midi. Les températures minimales iront de 1 à 12 degrés selon les régions. L'après-midi, la douceur domine entre 14 et 24 degrés du nord au Pays Basque. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Alison Vicrobeck à la technique d'Ali Yaha.